Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Julie Tassetti, journaliste à l'Alsace et aux dernières nouvelles d'Alsace pour la présentation du numéro 106 des Saisons d'Alsace consacré à la Révolution, l'Alsace au cœur de la Révolution. C'est l'intitulé de ce numéro qui nous plonge dans cet événement marquant de la fin du XVIIIe siècle qui a été assez tourmenté dans notre région, Julie.
Oui, en effet, c'était une période importante dans l'histoire de l'Alsace. Et en fait, dès une semaine après la prise de la Bastille à Paris, donc la nouvelle de la prise de la Bastille arrive en quelques jours à Strasbourg, et puis il va y avoir une réaction très rapide. En fait, donc elle arrive le 18 à Strasbourg, et dès le lendemain, dans le quartier Saint-Thomas, la maison d'un membre du magistrat, qui est donc l'administration qui dirige la ville, est mise à sac. Et donc c'est Jean Lempe, qui est le bourgeois donc, qui dirige la ville, il échappe de peu au lynchage. Et puis le lendemain, le magistrat annonce qu'il va céder aux revendications des citoyens qui ont rédigé leur doléance. Mais le 21, il y a une rumeur qui circule sur le fait que cette promesse ne sera pas tenue. Et donc, ça entraîne un rassemblement devant l'hôtel de ville qui se trouve à l'époque place Gutenberg. Et là, ça va être finalement l'émeute inaugurale, une sorte de Bastille strasbourgeoise. Et on a un témoin des événements, c'est un Anglais, Arthur Young, qui passait par là et puis qui va se transformer un peu en reporter. Donc il arrive en fin d'après-midi, il voit les habitants qui commencent à briser les vitres du bâtiment. Pour mieux voir, il monte sur le toit d'une échoppe voisine et puis il observe l'émeute. Et donc il décrit une averse de tuiles, une pluie de volets, de meubles, de papier. Il dit aussi que les troupes qui sont présentes, les troupes à cheval et à pied, sont assez impassibles. Elles laissent faire en fait les insurgés. Et donc cette émeute va vraiment ouvrir un été de troubles dans toute la région. Le 25, c'est le château des princes abbés de Murbach à Guebwiller qui sera saccagé et pillé. Et puis tout l'été, il y aura des troubles un peu partout, du nord au sud de l'Alsace. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que la révolution va être vraiment lancée dans la région.
Un personnage émerge à Strasbourg, mais il aura une ampleur nationale. C'est Philippe Frédéric de Dietrich, qui est le premier maire de la capitale alsacienne.
Oui, alors en effet, c'est les premières élections municipales à Strasbourg, puisque jusque-là, je l'ai dit, elle était dirigée par le magistrat, qui était donc des représentants de la noblesse et de la bourgeoisie. Mais justement, les événements de l'été 89 ont pas mal ébranlé le magistrat. Et donc, Dietrich, qui est prêteur royal, c'est-à-dire nommé par le roi pour veiller aux intérêts de la monarchie et en même temps au bon fonctionnement du magistrat, donc il est prêteur royal depuis l'été 88. Et en fait, il revient donc à cette occasion à Strasbourg, alors que, en effet, il avait passé 20 ans à Paris. Et donc, lors des émeutes de l'été, il se pose un petit peu en médiateur, c'est-à-dire qu'il apparaît à la fois comme le représentant du roi et aussi des idées révolutionnaires. Et donc, il se pose un peu comme candidat naturel à la municipalité. Voilà, donc face à lui, il y a François-Xavier Poirot, qui est l'ancien chef de l'administration de la ville, qui est catholique, alors que Dietrich est protestant, et luthérien précisément. Et donc, Alors Poirot, lui, se pose plus en défenseur des particularismes locaux. La candidature de Dietrich, elle est un peu contestée. Voilà, il y a diverses manœuvres, notamment sur le fait qu'il n'est pas résident. Ça fait longtemps qu'il habite plus à Strasbourg, etc. Mais bon, les manœuvres vont échouer et donc il sera effectivement élu en février 1790 et puis réélu en novembre 91, cette fois avec 80% des voix.
Alors Philippe Frédéric de Dietrich va être à l'initiative d'un chant qui deviendra en 1879 l'hymne national de la France, c'est-à-dire la Marseillaise, qui à l'origine ne porte pas ce nom, qui est le chant de guerre de l'armée du Rhin.
Oui, en effet, donc on connaît tous, je pense qu'on a tous eu dans nos manuels scolaires ce tableau ultra célèbre d'Isidore Pils, où on voit Rouget de Lisle qui entonne la Marseillaise devant le maire de Strasbourg, donc Philippe Frédéric de Dietrich et puis quelques amis. Alors c'est une scène qui est devenue un peu mythique, mais bon, il y a eu beaucoup d'interprétations, de récits, voire de légendes un peu sur la création de ce chant. Mais c'est vrai qu'en fait, en effet, il est né à Strasbourg. Alors le contexte, c'est la déclaration de guerre par la France révolutionnaire à l'Autriche, à l'empereur autrichien François II. Donc ça, c'est le 20 avril 1792. Et le 25, il y a cette soirée chez Dietrich où Rouget de Lisle est présent. Et donc Dietrich lui commande un chant pour accompagner les soldats. Alors Rouget de Lisle, qui est lui-même officier en garnison à Strasbourg, qui avait déjà composé un hymne à la liberté, il compose en une nuit les paroles et la musique de ce chant de guerre pour l'armée du Rhin. Il le présente le lendemain matin à Dietrich, qui est séduit. Et puis, le soir même, le maire réunit les mêmes amis que la veille. Et alors, contrairement à ce que montre le tableau d'Isidore Pils, ce serait Dietrich lui-même qui aurait alors entonné le chant et non pas Rouget de Lisle. Et puis ensuite, donc le chant est imprimé. Mais bon, l'enthousiasme finalement à Strasbourg et en Alsace retombe assez vite. Dietrich lui-même trouve que bon, c'est pas très marchand. On n'a pas de représentation publique attestée à Strasbourg, mais les paroles sont quand même publiées dans la presse. Et finalement, c'est en dehors de l'Alsace que le chant va connaître le succès qu'on lui connaît par la suite. Puisque c'est à Marseille qu'il sera entonné par les volontaires du Midi qui montent à Paris, et puis les Parisiens qui vont à ce moment-là, en entendant ces volontaires du Sud chanter, qui vont le rebaptiser d'abord l'hymne des Marseillais et puis ensuite la Marseillaise, qui sera adoptée comme hymne du coup par les révolutionnaires, alors que c'était un chant qui avait été finalement commandité par Dietrich, qui était plutôt un monarchiste constitutionnel, donc assez loin des idées finalement de ceux qui adoptent le chant. Et voilà, et donc après avoir été un peu relégué au 19e siècle, vous l'avez dit, il sera la Marseillaise, pardon, deviendra l'hymne national en 1879 sous la Troisième République.
Vous avez rappelé, Julie, l'interprétation quelque peu fantasmée d'Isidore Pils à travers ce tableau devenu aujourd'hui incontournable de la représentation historique française, tableau qui date de 1849. Mais il y a également une deuxième erreur dans la mise en valeur de cet événement historique, c'est la plaque qui figure sur le bâtiment de la Banque de France, place Broglie à Strasbourg. Ce n'est pas là que résidait le maire de Dietrich à la fin du mois d'avril 1792, au moment où ce chant a été interprété pour la première fois. C'était la résidence de son père, Jean de Dietrich. Lui habitait au 17 rue des Charpentiers, qui est devenu le numéro 16 aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toute une succession d'approximations ou d'erreurs dans la présentation de cet événement historique.
Oui, en effet, et après même, le succès finalement assez inattendu du chant a donné lieu à toutes sortes de récits. Et certains sont allés jusqu'à remettre en cause la paternité de Rouget de Lisle ou à inventer des lettres pour entretenir un peu la légende. Finalement, c'est bien plus qu'un chant qui est né à Strasbourg en avril 1792. Il y a un peu toute une mythologie autour de cet épisode.
Ce chant de guerre de l'armée du Rhin, qui deviendra donc la Marseillaise, est dédié au maréchal Nicolas de Luckner, qui commandait cette armée du Rhin. Nous allons marquer, Julie, une première pause musicale dans cette émission passé, présent, et c'est justement la Marseillaise que nous allons écouter.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang, qu'un pur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité, Julie Tassetti, journaliste à l'Alsace et aux dernières nouvelles d'Alsace, qui nous présente la dernière livraison des Saisons d'Alsace. C'est le numéro 106, intitulé « L'Alsace au cœur de la Révolution ». La Révolution a un fort impact sur les différentes expressions religieuses et en particulier sur l'Église catholique. L'événement majeur est l'institution de la constitution civile du clergé par le décret du 12 juillet 1790.
C'est ça, donc c'est en fait la création de nouveaux diocèses dans lesquels les prêtres et les évêques sont élus par les citoyens et doivent prêter serment, un serment de fidélité à l'État. Donc évidemment, le pape Pie XI condamne ces mesures et ça va provoquer un véritable schisme, c'est-à-dire d'un côté les prêtres constitutionnels ou jureurs qui prêtent serment, et de l'autre, les prêtres réfractaires qui le refusent. Donc en Alsace, il y a deux évêques constitutionnels qui y sont élus, Gobel dans le Bas-Rhin et Martin dans le Haut-Rhin. Et d'ailleurs, il faut noter qu'ils sont élus tous les deux avec une bonne part de voix issues des électeurs protestants, qui du coup sont ralliés au constitutionnel. Et puis pour ce qui est des curés, alors là la situation est assez différente dans les deux départements, puisque le Bas-Rhin affiche le taux de prêtres assermentés le plus bas de France, seulement 8%, alors que dans le Haut-Rhin ils sont 24%, et c'est un chiffre qui augmente plus on va vers le sud du département. Donc Les évêques, évidemment, doivent faire face aux résistances des prêtres réfractaires. Alors, parmi ces derniers, il y en a qui émigrent. Le 26 août 1792, il y a même une loi qui ordonne leur déportation, c'est-à-dire qu'ils doivent quitter l'Alsace, alors librement, avec un passeport, mais voilà, en attendant de pouvoir revenir un jour. Et puis progressivement, même les prêtres jureurs vont être menacés par les révolutionnaires les plus extrémistes qui veulent éradiquer complètement le clergé, qu'il soit finalement assermenté ou non. Et donc en 1793, on est dans la terreur, on instaure le culte de la raison. D'ailleurs, la cathédrale de Strasbourg lui est dédiée. Et puis, en novembre 1793, les révolutionnaires vont y organiser une grande célébration durant laquelle des prêtres abdiquent solennellement et renoncent à leur fonction ecclésiastique.
Le diocèse de Strasbourg est un cas de figure assez particulier, Julie, puisqu'il est sous l'Ancien Régime. Situé à cheval sur les deux rives du Rhin, et le dernier cardinal de Rohan va se réfugier dans la partie trans-rhénane du diocèse qui correspond aujourd'hui à Lortenau. Il va vivre ses dernières années à Ettenheim, où il est d'ailleurs inhumé dans l'église paroissiale qui est surnommée l'autre cathédrale de Strasbourg pour cette raison.
C'est ça, en effet, Rohan, qui est connu par ailleurs pour sa naïveté dans l'affaire du collier de la reine. Il s'est exilé dans l'Ortenau, il pensait sans doute pouvoir revenir en Alsace, mais finalement il n'est jamais revenu et en effet il est décédé et enterré là-bas. Et parce que dans le Bas-Rhin, en effet les réfractaires régnaient en maître. Et d'ailleurs, en 97, il y a une nouvelle loi répressive qui a entraîné une seconde déportation des réfractaires. Et les prêtres exilés ne sont rentrés en Alsace qu'en 1800, après l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte.
Et à Ettenheim, le cardinal de Rohan va entretenir une cour, accueillir quantité d'immigrés. Rappelons qu'il est prince souverain de Lortenau, qui sera à sa mort au début de l'année 1803 rattaché au grand-duché de Bade.
Oui, en effet.
Et c'est Claude Müller, ancien directeur de l'Institut d'histoire de l'Alsace à la Faculté des sciences historiques de Strasbourg, qui relate cet épisode. Il y a également la question ô combien délicate du statut des Juifs durant cette période révolutionnaire.
Oui, évidemment, les Juifs sont ciblés aussi pendant la Révolution. Alors, avant la Révolution, en 1784, ils ont eu quelques acquis. Enfin, en tout cas, il a été envisagé de leur ouvrir l'état civil, comme ça avait été le cas pour les protestants. Au printemps 89, ils obtiennent le droit de rédiger leur cahier de doléances, ce qui est une spécificité en Alsace. Et du coup, ils réclament une existence légale, le droit au travail, l'égalité avec les autres confessions. Mais il y a vraiment une hostilité forte à leur encontre. Et d'ailleurs, dans les cahiers de doléances des autres catégories de population, on voit la méfiance qui s'exprime à leur égard. Donc, il y a un homme qui mène un combat en faveur des Juifs à l'Assemblée, c'est l'abbé Grégoire, qui est l'une des principales figures de la Révolution. Et il demande à plusieurs reprises que les députés reconnaissent aux Juifs les droits et devoirs des citoyens, y compris la liberté de culte, qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et donc son discours, avec d'autres, vont finir par porter, puisque le 28 janvier 1790, l'Assemblée constituante vote l'émancipation des Juifs. Alors des Juifs, pas tous, puisque c'est des Juifs d'origine portugaise, espagnole et avignonnaise, puis celle des Juifs du Midi, mais pour ceux de l'Est, qui représentent pourtant plus de la moitié de la communauté française, l'émancipation est bloquée par les députés alsaciens qui s'y opposent. Et à Strasbourg, ils sont encore marginalisés, puisqu'en septembre 90, on leur interdit le colportage, on leur interdit les rassemblements dans les lieux publics. Et finalement, les Juifs d'Alsace ont dû attendre jusqu'au 27 septembre 91 pour qu'on leur accorde la citoyenneté. Et donc à cette date-là, elle est accordée à tous les Juifs de France. Mais simplement, la décision va mettre un certain temps à s'appliquer en Alsace. Il y a vraiment des freins importants. Finalement, ils auront leur droit le 21 février 1792. Sauf qu'après, il y aura la terreur et donc les persécutions vont reprendre encore à l'égard des Juifs.
Rappelez que l'Alsace constitue la plus importante des communautés juives la France à cette époque. Environ la moitié des Juifs français sont établis en Alsace.
C'est ça. Et donc l'Alsace qui vraiment dans la Révolution se distingue par le multiculturalisme et le multiconfessionnalisme, est marquée par ces questions de coexistence des religions, et ça complexifie la situation au moment de la Révolution.
Musical dans cette émission Passé-Présent. Je vous retrouve ensuite, Julie Tassetti, pour la suite de notre conversation à propos de ce numéro 106 des Saisons d'Alsace intitulé « L'Alsace au cœur de la Révolution ». Ce sont des chants de la période révolutionnaire que j'ai choisi pour illustrer musicalement cette émission. Nous écoutons l'un des plus connus, créé dans le Piémont en 1792, la Carmagnole.
Madame Veto avait promis,
Madame Veto avait promis,
de faire égorger tout Paris,
de faire égorger tout Paris.
Mais sans coup à manquer, grâce à nos canonniers,
dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Monsieur Veto avait promis,
Monsieur Veto avait promis,
d'être fidèle à son pays,
d'être fidèle à son pays.
Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca consacrée aujourd'hui à la Révolution en Alsace à l'occasion de la publication du numéro 106 des Saisons d'Alsace. Et c'est Julie Tassetti que j'ai le plaisir d'avoir comme invitée pour nous présenter ce numéro des Saison d'Alsace. Julie, la Révolution, c'est aussi l'épisode tragique de la Terreur, et vous consacrez une large place à ce moment particulier dans le dernier numéro des ces ondes d'Alsace, les projets imaginés par les députés à Paris pour l'Alsace sont d'une radicalité inquiétante.
Oui, il y a eu beaucoup de projets pour finalement mettre l'Alsace au pas, parce que on considère que cette province n'est pas assez dévouée à la République. Alors heureusement, tous ces projets n'ont pas été mis en œuvre, mais en effet, on a un article de Michel Knittel qui les présente dans le détail. Évidemment, l'Alsace doit être francisée. À l'automne 93, la Convention envoie des représentants, dont les plus célèbres sont Saint-Just et Lebas, ces deux fidèles de Robespierre. Et alors, il s'appuie sur la propagande, avec un grand P, qui est une institution terroriste que les Jacobins utilisent pour faire appliquer leurs mesures plus ou moins radicales. Donc, parmi les mesures qui ont été appliquées, il y a par exemple les Strasbourgeoises qui ont dû abandonner leur coiffe, qui était jugée trop germanique. L'alsacien, évidemment, le dialecte était visé en premier lieu, puisque il était vu d'ailleurs comme les autres patois, comme un danger pour l'unité de la nation. Et en Alsace, en plus, c'était la langue de l'ennemi. Les révolutionnaires, ils recommandent d'envoyer dans chaque village un maître d'école qui maîtrise les deux langues pour pouvoir apprendre le français aux enfants, puisque dans les campagnes, les gens parlent très peu, voire pas du tout le français, c'est l'alsacien et l'allemand. Ça c'est des mesures assez... qui ne sont pas encore très radicales, mais il va y en avoir d'autres. Par exemple, la déportation, c'est-à-dire envoyer en France des Alsaciens germanophones et les remplacer en Alsace par une colonie de sans-culottes francophones. Et c'était cette idée-là d'une colonie française en Alsace, parmi la population alsacienne, ça revient à plusieurs reprises. Alors, elle est même parfois associée à l'idée de mariage forcé. On va obliger les jeunes filles alsaciennes à épouser ces Français de l'intérieur, entre guillemets. On l'a déjà dit, les Juifs sont ciblés, ils ont obtenu la citoyenneté, mais pendant la Terreur, ils sont de nouveau persécutés. Notamment en février 94, les synagogues sont fermées et pillées, les livres saints sont brûlés, la circoncision et l'abattage rituel sont interdits. Et dans les mesures les plus extrémistes, qui encore une fois heureusement n'ont pas été mises en œuvre, mais certains révolutionnaires les plus extrémistes ont voulu guillotiner le quart des habitants de la province. Ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même eu, durant quelques semaines, un tribunal révolutionnaire qui a exercé la terreur. Donc, c'était à l'automne 93, d'abord à Strasbourg, et puis ensuite dans plusieurs villes du Bas-Rhin. Et c'était l'accusateur public et Eloge Schneider, qui donc circulait avec sa guillotine ambulante. Donc, il était d'abord installé sur la place d'armes à Strasbourg, qui est l'actuelle place Kléber. Et puis, ensuite, il s'est promené un peu dans différentes villes du Bas-Rhin avec sa guillotine. Et il a fait exécuter 31 personnes. Qui est notamment sept laboureurs de Geispolsheim qui ont été jugés et guillotinés le même jour pour des délits d'opinion, parce qu'ils avaient des idées aristocratiques ou pas assez révolutionnaires. C'est un épisode qui avait beaucoup marqué la population à l'époque.
C'est un personnage singulier que cet Eloge Schneider, qui n'est pas alsacien de naissance, il nous vient de Franconie, et c'est un religieux défroqué. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il sera lui-même victime de la guillotine à Paris en avril 1794, lui qui avait tant milité pour son emploi auprès de la population alsacienne.
C'est ça, il a fini lui-même décapité comme il l'avait fait pour un certain nombre de ses concitoyens.
Nous allons marquer une troisième pause musicale dans cette émission passé-présent. Nous retrouvons ces chants de la période révolutionnaire qui illustrent musicalement cette émission. Je vous propose d'entendre maintenant Cadet Roussel, une chanson de Gaspard de Chenu, composé en 1792. C'est une chanson quelque peu ironique qui moque Guillaume-Joseph Roussel, qui n'était autre que le huissier audiencier de la ville d'Auxerre.
Cadet Roussel a trois maisons.
Cadet Roussel a trois maisons.
Qui n'ont ni poutre ni chevron.
Qui n'ont ni poutre ni chevron.
C'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous, Cadet Roussel?
Ha ha, ah oui vraiment. Cadet Roussel est bon enfant.
Cadet Roussel a trois habits.
Cadet Roussel a trois habits.
Deux jaunes et l'autre en papier gris.
Deux jaunes et l'autre en papier gris.
Il met celui-là quand il gèle, ou quand il pleut, ou quand il grêle.
Ha ha, ah oui vraiment. Cadet Roussel est bon enfant.
Cadet Roussel a trois beaux yeux.
Cadet Roussel a trois beaux yeux.
Un la regarde à quand l'autre à Bayeux.
La regarde à quand l'autre à Bayeux.
Comme il n'a pas la vue bien nette, le troisième c'est pour sa lorgnette.
Ah ah, ah mais vraiment. Cadet Roussel est bon enfant.
Cadet Roussel a trois deniers.
Cadet Roussel a trois deniers.
C'est pour payer ses créanciers.
C'est pour payer ses créanciers.
Quand il a montré ses ressources, il les remet dedans sa bourse.
Ah 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 mais vraiment. Cadet Roussel est bon enfant.
Cadet Roussel ne mourra pas.
Cadet Roussel ne mourra pas.
Car avant de sauter le pas.
Car avant de sauter le pas.
On dit qu'il apprend l'orthographe pour lire lui-même son épitaphe.
Ah 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 oui vraiment. Cadet Roussel est bon enfant. Ah 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 oui vraiment. Cadet Roussel est bon enfant.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka qui est consacrée aujourd'hui à la Révolution en Alsace. Et pour nous présenter le numéro 106 des Saisons d'Alsace qui est consacré à cet épisode de notre histoire, j'ai convié Julie Tassetti. Julie, l'épisode terminal en quelque sorte de la Révolution, c'est le directoire, un régime qui est relativement décrié entre 1795 et 1799, décrié parce que la situation économique, politique et sociale de la France sera très affaiblie à cette époque. C'est une période de grande instabilité, mais c'est aussi une période où un Alsacien va émerger. Il est originaire de Colmar, il est avocat de profession et il sera le seul et unique Alsacien à avoir occupé les fonctions de chef de l'État en France. Il s'agit de Jean-François Reubel.
En effet, qui sera président, qui présidera le directoire du 1er novembre 1795 au 4 septembre 1797. Donc, c'est en effet, c'est un colmarien, fils de notaire, qui devient avocat, qui sera, vous l'avez dit, le seul Alsacien à avoir eu rang de chef de l'État, et dont le principal sujet de préoccupation, sera la guerre et la politique extérieure. Il prônait notamment l'annexion des pays de la rive gauche du Rhin, Et la guerre à ce moment-là était très très présente jusqu'en octobre 97 où le traité de Campo Formio met fin au conflit avec l'Autriche, mais pas la menace de la guerre qui continuera jusque en 1801 en Alsace. Et donc, Reubel sera finalement écarté du pouvoir définitivement par le coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799. Et il mourra peu après son retour à Colmar en 1807. Alors, il y a une anecdote ou une légende qui raconte que c'est le prénom de son épouse qui s'appelait Marie-Anne, en deux mots, qui aurait inspiré le prénom de Marianne, en un seul mot, symbole de la République.
Alors Jean-François Reubel est malheureusement pas suffisamment connu aujourd'hui. Il y a une rue qui porte son nom du côté du château d'eau à Colmar, à deux pas de la cour d'appel. Il y a une plaque mémorielle qui rappelle le lieu de son domicile colmarien, mais pour le reste, il est relativement ignoré. Il est important qu'effectivement nous puissions saluer sa mémoire parce qu'il a joué un rôle important dans cette période singulière de l'histoire de France. Julie, quelles sont les prochaines publications des Saisons d'Alsace, puisque vous êtes en charge de leur coordination ?
Alors, je ne suis pas seule en charge, donc, parce que justement, le prochain numéro, qui paraîtra au mois de juin, est piloté par mon collègue Emmanuel Viau, et il sera consacré aux 20 ans d'archéologie Alsace, donc qui fait de l'archéologie préventive, et donc ce sera l'occasion de revenir sur un certain nombre de chantiers de fouilles qui racontent l'histoire finalement de l'Alsace depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Et le numéro suivant qui paraîtra à l'automne et qui sera le dernier de cette année sera consacré aux reconstructions en Alsace après les différents conflits puisque l'Alsace est évidemment très marquée par les guerres et donc on va essayer de s'intéresser aux phases de reconstruction.
Merci beaucoup, Julie, pour cette évocation de l'Alsace au cœur de la Révolution. C'est le titre du numéro 106 des Saisons d'Alsace que vous pouvez trouver chez les libraires depuis quelques jours maintenant. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission passé-présent, et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec le chant du départ qui a été composé en 1794 pour célébrer l'un des épisodes importants des guerres de la Révolution, la victoire de Fleurus. C'était le 26 juin 1794. L'auteur des paroles est le poète Marie-Joseph Chénier. La musique, elle, est composée par Étienne-Nicolas Méhul. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.